milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Penaï Traoré.
Bonjour et bienvenue à nos 7 milliards de voisins et de voisines. Plus de 70 millions de personnes dans le monde ont été forcées de fuir leur foyer. Parmi elles, près de 26 millions sont réfugiés, dont plus de la moitié à moins de 18 ans. Ce sont des données recueillies en 2019 par l'UNRHCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Un chiffre record. Aujourd'hui, nous parlons de l'intégration professionnelle des réfugiés. Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent pour avoir du travail ? Comment leur faciliter la tâche, eux qui la plupart du temps laissent derrière eux leur métier d'origine quand ils sont obligés de partir. Avec plus de 130 000 demandes introduites à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2019, les demandes d'asile ont augmenté de plus de 7% en France par rapport à 2018. Les voisins et les voisines, êtes-vous réfugiés? Racontez-nous comment ça s'est passé pour vous dans votre pays d'accueil. Avez-vous eu du mal à trouver du travail? Si oui, était-ce le métier pour lequel vous avez été formé? On vous attend au 33 1 84 22 71 71 sur WhatsApp aussi, où vous pouvez nous laisser vos messages. Nous écouterons aussi le reportage de Charlie Dupiot dans un centre expérimental d'accueil et d'insertion des réfugiés à Paris.
7 milliards de voisins
et la planète sépare.
Des femmes et des hommes passionnés, dotés d'un savoir-faire acquis dans leur pays d'origine, rencontrent en France de nombreux freins à leur insertion professionnelle en tant qu'artisans. Nos invités du jour partageront avec nous leurs expériences et leurs initiatives. Inès Mesmar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ethnologue de formation et vous avez créé en 2016 la fabrique Nomade qui agit en faveur de l'insertion des migrants et réfugiés. C'est bien cela?
Tout à fait.
Et l'histoire a commencé quand vous avez découvert le métier que votre mère faisait à son arrivée, avant son arrivée en France. Nous en parlerons tout à l'heure. Maz Mahmoud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes originaire du Bangladesh. Vous êtes cofondateur de ECOTA, qui signifie unité en Bangladesh, je ne me trompe pas?
Exactement.
L'association qui fait en sorte que les déplacés deviennent des acteurs et non plus des sujets. Rachid Norizi, bonjour. Vous êtes
bonjour.
Notre troisième invité. Vous êtes originaire d'Iran, chef cuisinier au cuistot migrateur, un traiteur qui a fait de son credo le recrutement de réfugiés. Et les cuistot migrateurs, c'est aussi un livre de cuisine sorti aux éditions de La Marinière. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre, Rachid Norizi?
Plein de recettes.
Plein de recettes. Et des portraits de vous, évidemment. Oui. Vous et les autres cuisiniers qui ont été mis en évidence et qui travaillent justement au cuistot migrateur. On commence par vous, voilà. Vous
Merci.
Gardez le micro. Rachid Norizi, comment êtes-vous arrivé en France? Ça a été difficile ou comment c'était pour vous?
C'était facile et difficile. Je suis venu avec un visa D quand je suis arrivé ici. J'ai déjà...
Le visa D, c'est quoi? Il vous permet de travailler,
visa D,
de vous installer?
C'est un visa diplomatique que vous pouvez travailler ici. Première fois qu'il vous demande de la carte d'identité. Et il vous donne carte séjour avec autorisé de travail. Je demandais déjà à l'ambassade de France qui est en Iran pour avoir le visa D. Du coup, je suis arrivé en France et j'ai pris de travail chez un restaurant iranien. Et après, j'ai décidé de partir parce que je vis maintenant en France et il faut que j'apprenne la langue française, il faut que je communique avec les autres gens qui sont là. Et après un an et demi, je suis parti et j'ai travaillé au Emmaüs Kudma à Pantin.
Chez Emmaüs.
Ouais, Emmaüs Kudma à Pantin. Et c'est là-bas qu'ils m'ont trouvé de logement. Ils m'ont donné un appartement à Pantin. Et... Après, en même temps de Emmaüs, j'ai travaillé pour les cuistots migrateurs aussi. Du coup, maintenant, je suis chef de cuistots migrateurs.
Félicitations.
Merci.
Et Maz Mahmoud, j'imagine que ça n'a pas non plus été facile pour vous, votre parcours? Ou pour vous, voilà, c'était comme suivre des roulettes?
Alors, moi, du coup, je suis une personne déplacée de Bangladesh. J'ai dû partir pour des raisons diverses et variées. Et après, je me suis retrouvée un an plus tard en France, après avoir traversé trois différents continents.
Et c'était en quelle année?
Je suis arrivée en 2015, 2014. Ouais. Et du coup, oui, je suis arrivée en 2014 sans vouloir être en France. Mais après, je me suis dit, voilà, je suis arrivée ici. Je vais rester ici. Et donc, depuis là, je suis toujours là.
J'ai vu quelque part que vous ne vous définissiez pas en tant que réfugiée.
Exactement. En fait, j'utilise le mot personne déplacée. Personne déplacée, ça englobe à peu près toutes les différentes personnes. Personne déplacée, c'est-à-dire les personnes réfugiées, personnes demandeurs ou demandeuses d'asile,
oui.
ou des migrants ou migrantes, et des apatrides, et des personnes déplacées internes. Comme il y a une connotation négative autour du mot réfugié et migrant ou migrante, donc on utilise dans l'humanitaire, dans le domaine humanitaire, on utilise le mot personne déplacée. Dans ce cas, ça englobe tout le monde et ça laisse pas d'autres personnes qui sont pas là.
Mais donc après, ceux qui arrivent à s'installer et avoir le droit de s'installer, on peut les appeler réfugiés quand même ou pas ?
Exactement. Oui, du coup, les personnes qui ont déjà leur statut, soit par rapport à la Convention de Genève de 1951, donc là, c'est les personnes qui ont déjà reçu leur statut de réfugié, ou c'est des demandeurs ou demandeurs d'asile. Donc, demandeurs d'asile. Exactement.
Et notre troisième invité, Vous avez, j'imagine, vous n'êtes pas, ce n'est pas les mêmes conditions. Vous avez décidé plutôt de vous investir, de créer une entreprise pour aider les réfugiés.
Oui, tout à fait. Après, je suis quand même issue d'immigration, étant moi-même une femme issue d'immigration. Ce sont mes parents qui se sont déplacés, en fait, qu'on a appelés, puisqu'à l'époque, on allait chercher des personnes pour participer à la reconstruction de la France. Et donc, moi, je suis issue de cette histoire-là. Et c'est ce qui a... En fait, c'est là que j'ai trouvé la source pour créer la Fabrique Nomade et créer des créatifs.
C'est l'histoire de votre mère qui vous a inspiré.
Tout à fait.
Racontez-nous un peu comment vous vous êtes retrouvée prise dans cette envie d'aller créer cette entreprise.
Alors, moi, ça a été vraiment de découvrir l'histoire de ma mère, donc, qui exerçait le métier de brodeuse en Tunisie. Un métier qu'elle a abandonné quand elle arrivait en France il y a plus de 46 ans maintenant. Et un métier que j'ai vraiment découvert, dont elle n'a jamais parlé parce qu'elle considérait que ça ne valait plus rien, que ça n'avait même pas le droit de citer. Et donc, moi, à l'âge de 35 ans, je découvre l'histoire de ma mère, qui est normalement la personne qu'on est censé le mieux connaître au monde. Et à travers ses broderies, je découvre les difficultés qu'elle a rencontrées. Ce silence, cet effacement de soi pendant plus de 40 ans, on efface qui on est pour ses proches, mais aussi pour la société.
Vous avez senti que votre mère souffrait quelque part ou...
Non, parce qu'elle l'avait complètement accepté et intégré, comme beaucoup de personnes qui arrivent ici, qui intègrent le fait que ici, ils n'ont pas le choix, ils doivent accepter ce qu'on leur donne, parce que c'est une chance déjà. Et en fait, je considère que, à travers son histoire, elle n'a pas eu sa chance ou elle n'a pas réussi à trouver sa place parce que finalement, elle-même, elle a mis de côté, parce qu'il y avait tous ces freins-là qui sont la langue, l'absence de réseau. Et voilà, et c'est ce qui, de par son histoire, en fait, qui m'a portée et qui m'a donné envie, effectivement, d'agir pour toutes les personnes qui arrivent ici.
Maz Mahmoud, vous avez longtemps cherché du travail et vous vous êtes dit, je n'arrive pas à trouver du travail, je vais créer quelque chose.
Alors, du coup, pour expliquer un peu, moi, j'ai fait un master en droit de l'homme et action humanitaire avec une spécialisation sur la migration et autour d'Européenne de Sciences Po Paris. Et pendant l'année 2017, j'ai travaillé au HCR, au commissariat de réfugiés pour les Nations Unies à Genève. Et là-bas, j'ai trouvé qu'il y avait 1400 personnes qui travaillaient au siège quand j'ai travaillé là-bas. Il n'y avait pas plus que une dizaine de personnes réfugiées qui travaillaient là-bas. Quand même, c'est l'agence qui représente les personnes réfugiées ou les personnes déplacées dans le monde. Et leur travail, c'est de plaidoyer auprès de d'autres personnes, auprès de la délégation d'État, pour rappeler que vous devrez intégrer les personnes réfugiées dans votre équipe. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un peu contradictoire. Du coup, après, je suis revenu, j'ai aussi travaillé un peu à Bruxelles, auprès de délégués à la Fédération internationale des droits de l'homme. Et là-bas, c'était à peu près la même chose. Mais là, c'était plutôt droits humains, c'était pas l'immigration. Et après avoir revenu à Paris, j'ai travaillé un peu chez BNP Paribas Cardiff sur la stratégie des RSE. Après, donc, je me suis dit, je vais retrouver mon chemin.
Vous avez commencé à chercher autre chose.
J'avais commencé à chercher d'autres choses, notamment dans le domaine humanitaire et dans le domaine de migration. Et là, du coup, j'ai postulé pas mal, notamment dans des associations qui travaillent avec les personnes déplacées. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait un conflit d'intérêts. Je ne savais pas pour de quelles raisons exactement, une personne réfugiée n'arrive pas à décrocher un travail, dont des associations qui réclament qu'ils travaillent pour les associations, pour les personnes réfugiées.
Les réfugiés.
Et donc là, tout cela, je me suis dit, j'aimerais bien changer ça un peu. Et donc, j'ai discuté autour de moi. J'ai rencontré une amie syrienne qui est aussi étudiante de Sciences Po, qui elle fait un master aussi à Sciences Po comme moi. Et on a discuté ensemble, et après j'ai discuté avec mes amis. Et donc du coup, entre quatre personnes, donc du coup Lynn, l'amie syrienne.
Vous vous êtes associée pour pouvoir créer Ekota.
Exactement. Donc du coup, l'année dernière, en septembre, nous avons lancé l'association Ekota. Dans le but d'avancer les causes de personnes déplacées pour faire en sorte que les personnes déplacées deviennent des acteurs et non plus des sujets de d'autres associations et aussi tout en contribuant à le réchauffement contre le réchauffement climatique.
Rachid Nourouzi, quand vous êtes arrivé en France, est-ce que vous vous attendiez à trouver un travail dans votre domaine de formation, dans votre domaine d'exercice, le boulot que vous aviez avant d'arriver?
En fait, mon travail, c'est un travail familial pour moi, parce que mon père, il est cuisinier, ma grand-mère, elle était cuisinière, et ma mère, elle est pâtissière plutôt. Et c'est pour ça que j'ai décidé moi aussi de travailler dans un restaurant. Et du coup, je suis allé directement dans un restaurant.
Et ça a été facile de trouver quelque chose
pas trop
en
facile,
cuisine
parce
dans
que pour les étrangers, c'est pas facile. Il faut avoir de CV, expérience au travail. En plus, dans un autre pays, de venir ici, c'est pas facile de trouver un bon chemin pour aller au travail. Parce qu'ils demandent, il est où ton CV? Moi, j'avais des CV chez moi, mais j'avais pas de CV ici en France. C'est ça le problème. Après, vous n'avez pas d'expérience, niveau de expérience, niveau de décalage, niveau de toutes les choses, ça change tout.
La langue et tout
ben
ça.
Oui, ça aussi. Hein. Je suis allé dans un resto français aussi, et je travaille là-bas. J'étais dans partie de légumerie. Après un mois, le chef, il m'a débougé là. Tu viens dans la cuisine parce que tu as l'expérience. Ça dépend des gens
aussi.
Dans
la pratique, oui. Ils constataient que vous étiez très compétent.
Ça dépend des gens aussi. Mais sinon, si quelqu'un qui aime bien de rester chez eux pour avoir le chômage, de CAF, ça ne change rien pour eux.
Vous aviez pensé à un moment donné changer de voie, trouver un autre métier qui n'a rien à voir avec la cuisine?
Non.
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 C'était votre
ouais.
objectif.
Hein. Oui.
Et vous, Maz Mahmoud, à un moment donné, vous avez fait plein de choses, vous êtes passé par des entreprises, mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? J'ai envie de travailler dans l'humanitaire, dans mon domaine.
Alors, du coup, moi, j'ai fait études d'anthropologie dans mon pays. Et après, quand je suis arrivé en France, donc effectivement, comme je vous ai dit, j'ai fait un master en droit de l'homme et action humanitaire avec une spécialisation sur la migration. Et donc, du coup, de le départ, c'est ça que je voulais faire. Parce que...
Ce qui n'a pas été facile.
Exactement, oui. Parce que notamment quand j'étais par exemple au HCR, quand j'ai travaillé là-bas, il y avait 1400 personnes qui parlaient de sujets de personnes réfugiées et personnes déplacées. Et je sentais comme si j'étais le sujet de toutes les conversations autour dans le bâtiment. Donc ça, ce n'était pas facile. Mais du coup, c'est depuis le départ, quand j'ai commencé à lancer ma carrière, je voulais toujours travailler dans l'action humanitaire.
Dans l'humanitaire.
Exactement.
Inès Mesmar. Vous avez pris votre bâton de pèlerin en quelque sorte, aller chercher des réfugiés qui avaient un savoir-faire, qui pouvaient faire quelque chose, qui avaient une connaissance artisanale. Comment ça s'est passé?
Moi, tout de suite après l'échange avec ma mère, j'ai eu l'intuition que certainement parmi les personnes qui étaient arrivées sur le territoire parisien en Île-de-France, il devait y avoir des artisans. Donc j'ai été dans les centres d'hébergement à leur rencontre pour à la fois identifier s'il y avait des artisans, mais aussi pour comprendre surtout quels étaient les freins qu'ils rencontraient, donc l'absence de la barrière de la langue, l'absence de réseau, la méconnaissance du marché. Et surtout, en fait, et ça a été une découverte pour moi, quand j'ai échangé avec les structures qui accompagnent vers l'emploi, je me suis rendu compte que toute expérience qui sont dans leur pays d'origine, en fait, ne sont pas reconnues en France. Et ça, c'est le principal frein. C'est-à-dire que la personne, comme disait très bien Rachid, moi, je n'ai pas d'expérience en France. Mon expérience, elle est dans mon pays, mais en fait, celle-ci, elle n'est pas reconnue. Donc, pour eux, pour beaucoup, c'est un démarrage à zéro. travaux. Et comme il y a des secteurs qui sont en tension, bah, le BTP, le ménage, la sécurité, eh bien, c'est des personnes, quand elles cumulent tous ces freins-là, qui vont être orientées vers ces secteurs-là et qui vont être amenées à faire des métiers qu'elles n'ont pas choisis. Et donc, voilà, moi, j'ai été à leur rencontre. Et puis, j'ai rencontré le premier artisan, Yasser, qui donc est potier soudanais. Et de fil en aiguille, en me faisant connaître des structures d'hébergement, et puis l'association devenant, enfin, a pu être aussi médiatisée, m'a permis de me faire connaître auprès plus largement des structures d'hébergement, des associations qui m'ont orienté petit à petit,
et comment, artisans. Comment votre structure a été accueillie par ces réfugiés, ces artisans qui voyaient leur savoir-faire mourir?
Bah pour un certain nombre d'entre eux, bah ils ont revécu une fois qu'ils ont remis les pieds à l'atelier. Moi, voilà, pour citer l'exemple d'Abou Dubaev, qui est staffeur et éducateur tchétchène, il était en France depuis 4 ans, on l'avait orienté vers la sécurité, et il n'arrivait pas à trouver de travail, il avait pris 30 kilos, il était en dépression quand je l'ai rencontré. Bah, le jour où il a remis les mains dans la matière et dans l'atelier, il a revécu tout simplement.
Et à partir de quel moment un réfugié peut commencer à travailler en France Rachid Nourouzi, il y a des démarches à faire,
oui, à partir une longue procédure. Qui est préfecture et l'autorise pour travail.
Et vous c'est devez tout. Faire...
Ça dépend, il y a des gens qui prennent après 3 mois, il y a des gens qui prennent après 1 an, 2 ans, et ils n'ont pas droit de travail en France. Mais qu'est-ce qu'ils font? S'il n'a pas droit de travailler en France, qu'est-ce qu'il fait?
Oui, c'est l'une des grandes questions. Il faut d'abord réaliser une demande d'asile et apporter au pays qui vous accueille, en l'occurrence la France, des preuves qui montrent qu'il y a des menaces qui pèsent sur vous avant que le statut de réfugié ne vous soit accordé. Mmh. Et à partir de là, la personne peut commencer à travailler.
Oui, à partir de là, tout commence, je pense. Parce
que, tout ce qui là, est avant ne compte pas trop, en
non,
fait.
Non, c'est que c'est déjà un gros... j'imagine, enfin moi, je ne vais pas parler à leur place, mais c'est déjà tout un parcours. La demande d'asile est très longue. Et puis, une fois qu'ils obtiennent le statut et qu'ils ont l'autorisation de travail, ben, ce n'est pas fini, quoi. Le chemin, il est encore à faire.
Enfin, c'est pas du pas. Tout fini. Hein.
Voilà, ça commence, en fait, à
vous avez fait une formation de cuisine, vous avez fait une formation de sécurité. Et prendre toujours un diplôme de faire la formation pour faire votre travail.
Oui, en fait, en théorie, une fois une personne fait la demande d'asile, la procédure, ça devrait prendre jusqu'à 9 mois. Ça prend, quelquefois, ça prend plus que 9 mois. Et après la introduction de demande devant l'OFPRA, De la date, après le premier 6 mois, la personne, elle peut faire une demande spéciale à la préfecture pour avoir l'autorisation de travail. Mais en pratique, ça arrive presque jamais. Donc du coup, comme Rachid a dit, en pratique, c'est plutôt après avoir obtenu. Mais dans la loi, effectivement, on peut faire la demande.
Vous avez droit.
On peut faire la demande. Mais après, si c'est accordé ou pas, ça, c'est à la discrétion de la préfecture. Et ça arrive presque jamais.
Je vous propose d'écouter cette chanson de Neka Africans. You keep pushing the blame on how I could know your father. You say they came and they took all we had possessed. They have to take the abuse and they have caused the present state within children's history. Our goodness and nourishment in the name of missionary. Lied to us, blind us, they saved us, misplaced us, strengthened us, saddened us, then they replaced us. Now we got to learn from pain. Now it's up to us to gain some recognition. If we stop blaming, we could get a better condition. Wake up world, wake up world, wake up and stop sleeping. Wake up Africa, wake up and stop blaming. Open your eyes, stand up and arise. We'll block all our penalty. Why do we want to remain where we stand?
and then biting us.
C'était Neka qui chantait Africans. Vous êtes dans 7 milliards de voisins et nous discutons aujourd'hui de l'insertion professionnelle des réfugiés. Nous avons en ligne un auditeur, Alioune, qui est sénégalais et qui nous appelle de Nouakchott depuis la Mauritanie. Bonjour Alioune.
Bonjour.
Vous vivez en Mauritanie depuis 2013.
Oui, c'est ça.
Comment vous vous êtes retrouvé en Mauritanie? Vous êtes sénégalais?
Oui, bon, la Mauritanie, c'est un pays voisin. Par rapport à la situation familiale, pour chercher aussi la vie meilleure, on voulait partir au Maroc, mais finalement, Dieu nous a rappelé en Mauritanie. Et depuis lors, ça se passe super bien.
Mais ça se passe super bien pour vous, tant mieux. Vous êtes travailleur, vous avez pu vous insérer facilement sur le plan professionnel?
Non, c'était pas du tout facile. Parce qu'au début, on était embauché dans un autre atelier. Bon, là-bas, c'était un peu vraiment très, très, très dur, je veux dire. Mais depuis lors, ben, on s'approche. Jusqu'à, on a trouvé une autre place pour essayer de trouver la vie meilleure. Mais maintenant, au moment où je parle, on travaille pour soi.
Vous travaillez dans un atelier, vous êtes couturier, c'est bien ça?
Oui, oui, on est couturier, bien sûr.
On va essayer de retrouver Alioune dans quelques minutes. La ligne téléphonique se dégrade de plus en plus. On essaie de vous retrouver tout à l'heure, Alioune. Pour vous, qu'est-ce qui a été le plus difficile, Rachid Nourouzi?
Ici en France?
Oui, quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui a été le plus difficile?
La langue.
La langue. Mais là, vous parlez très bien français.
Moi, je n'ai pas pris le cours de français. Hein. Tout ce que j'ai appris, c'est dans mon travail. C'est communiquer avec les autres gens, c'est parler avec les autres, regarder des télé, dessins animés avec ma fille. C'est ça qui m'a aidé.
C'est comme ça que vous avez appris.
Ouais.
Mais c'était quand même un frein pour trouver du travail.
Ouais. Mais quand vous y allez dans une entreprise française, quand vous ne parlez pas bien français, qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous ne comprenez pas du tout la langue, qu'est-ce qu'ils vous demandent de le faire? Oh, vous ne pouvez pas parler à sa langue. Vous pouvez faire quoi?
Maz Mahmoud, pour vous, qu'est-ce qui a été le plus difficile?
Moi, je suis d'accord avec Rachid.
La langue aussi.
La langue, quand je suis arrivé, je ne connaissais pas le mot bonjour. Parce qu'au départ, quand je suis arrivé, je ne connaissais pas si j'étais en France. Donc, du coup, peu de raisons que je connaissais.
Vous ne saviez pas que vous étiez en France?
Non, du tout, absolument
vous
pas.
Vous pensez que vous étiez où?
je ne sais pas. Parce qu'au départ, moi, je voulais partir en Afrique du Sud. Et donc, je me suis retrouvé en
France. Oh, c'est très loin quand même.
Donc, du coup, je me suis retrouvé en France. Donc, effectivement, je ne connaissais pas le mot bonjour. Mais après, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup, beaucoup de personnes. Par exemple, il y a un policier qui m'a aidé quand je suis arrivé à Marseille. Et après, j'étais accueilli dans une famille pendant 4 ans quand même. Et j'ai appris la langue exactement comme Rachid, en parlant avec eux et en parlant avec mes amis que j'ai pu rencontrer il y a quelques années. Et c'est comme ça que j'ai appris la langue.
Vous avez appris comme ça.
Mais après, il y a d'autres difficultés. Par exemple, moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens, mais il y a des personnes réfugiées, personnes déplacées qui sont à Paris, qui n'ont pas cher de sens. Et donc, pour eux, c'est encore plus difficile. Par exemple, moi, j'ai vécu ici à Paris, j'ai vécu 9 mois dans la rue. Donc ça, c'était une partie qui était très, très difficile pour moi. Ouais. Et aujourd'hui même, on trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours à la rue, qui sont droits à rentrer dans le centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Mais
ils n'arrivent pas.
Ils n'arrivent pas parce qu'il n'y a pas une bonne coordination entre l'État et après l'association. Donc du coup, ça, c'est quelque chose qui est très difficile.
Difficile
et comme
aussi.
Rachid a dit tout à l'heure, en attendant, on n'a pas le droit de travailler. Quand on n'a pas le droit de travailler, quand on est dans la rue, comment on peut éviter pour se doucher, pour se nourrir?
Avoir le minimum vital.
Exactement, voilà. Et c'est ça, les choses qui étaient trop difficiles pour moi. Et je trouve que c'est encore difficile, c'est vrai, pour les gens qui sont dans la rue.
Donc, nous retrouvons notre auditeur, Alioune, depuis Nouakchott, la capitale mauritanienne. Rebonjour, Alioune.
Oui, rebonjour.
Voilà, c'est nettement mieux. On vous attend quand même bien que tout à l'heure. Vous nous disiez que vous avez eu une expérience difficile.
Oui, j'avais une expérience difficile parce qu'au début, je venais d'adapter les pays nouvellement. Et je ne savais pas comment ça se passe dans le marché. Donc, les premiers pas, il faut que tu rencontres des choses un peu très difficiles. Donc, le modèle de paiement et tout ça, je n'étais pas vraiment dans le but. Mais deux, trois mois après, je commence à connaître comment les choses vont se passer. Je me suis démissionné là où j'étais premièrement. Et finalement, j'ai retrouvé un autre gars qui s'appelle Souleymane Sela, qui était malien, qui venait d'ouvrir quelque chose à Nouakchott même. C'est à partir de là que les choses vraiment commençaient à marcher petit à petit pour moi. Mm-hmm. Parce que lui, il me payait. En même temps, il me donnait la nourriture. Donc, du coup, je pourrais économiser un tout petit peu jusqu'à aujourd'hui, grâce à ce qu'on a trouvé notre propre truc.
Et vos patrons précédents, est-ce qu'ils se disaient que vous étiez réfugié, que vous ne connaissiez pas vos droits, ils en profitaient?
Oui, ils en profitaient parce qu'ils disaient que je suis un immigré et je suis venu nouvellement, je ne connais pas ce qui se passe dans le pays. Donc, il faut qu'ils s'en profitent pour connaître, pour pouvoir tirer un tout petit peu sur moi. Vous voyez?
Et vous n'avez pas reçu d'accompagnement sur ce plan?
Non. On n'avait rien du tout. Vraiment, on n'avait rien du tout. Et donc, c'était un peu très difficile quand même. Mais bon, on dit que difficulté est africain. Il faut vivre avec.
Et là, vous avez surmonté vos difficultés. Vous êtes aujourd'hui votre propre patron. Vous avez votre atelier.
Oui, par la grâce de Dieu, après vraiment 7 ans de misère, de galère, parce qu'on pourra pas monter automatiquement quelque chose, parce qu'on n'avait pas assez de clientèle, on ne connaissait pas assez de business, tu vois, et on pourra pas économiser quelque chose, parce que tu vas envoyer la famille, tu vas garder quelque chose, tu payes les loyers, tu manges, tu dors, tout ça. Donc, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on a vraiment su créer quelque chose et voilà, on a créé une entreprise qui s'appelle Fake Poop Future Creation Nouakchott.
Restez avec nous, Alioune. Inès Mesmar, vous secouez un peu la tête par rapport à ce que notre auditeur était en train de raconter. Est-ce que vous pensez que parfois les employeurs, ils essaient de profiter de la méconnaissance de la loi par les réfugiés?
Je pense qu'après, la situation, elle est quand même assez différente en France. Mais effectivement, ce qu'on peut retrouver en France qui est assez similaire, c'est que notamment pour les couturiers qui arrivent d'Afrique de l'Ouest, leur premier pied-à-terre pour les Parisiens, c'est effectivement la Goutte d'Or. Et là, effectivement, il y a des petits ateliers, des petites boutiques qui sont louées par machine. Enfin, c'est la location de l'espace avec la machine. Et effectivement, bah, souvent, c'est des personnes qui ne sont pas encore régularisées, certains qui le sont. Et là, ils se retrouvent dans le cercle de la communauté avec des situations qui sont effectivement assez complexes, avec le poids de la personne qui est partie et de ses obligations à, effectivement, à soutenir la famille qui est restée au pays. Et donc, c'est une charge lourde et les personnes ont beaucoup de mal à s'en sortir, effectivement.
Mars Mahmoud et Rachid Nourizi, vous avez quelque chose à dire par rapport au témoignage d'Alioune, par rapport à son expérience? Il a eu des patrons difficiles qui ne le payaient pas avant et finalement il est tombé sur quelqu'un de bien qui a compris sa situation et qui l'a aidé.
Allez-y.
Effectivement, oui. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de demandeurs d'asile et des personnes réfugiées ici à Paris et en France. Les employés, ils profitent qu'ils ne savent pas leurs droits. Et notamment quand ils sont toujours en train de faire la demande d'asile, dans ce cas, ils n'ont pas beaucoup de droits. Mais ils ont quand même envie de gagner un peu d'argent.
Oui.
Et donc, du coup, là, quand ils demandent, quand ils travaillent en noir, et donc, du coup, quand ils ont travaillé en noir, donc, il n'y a pas beaucoup de... Les pays n'est pas aussi bien, mais même après, donc ils ont déjà obtenu leur statut de réfugié. Rachid peut me corriger, par exemple, si on ne parle pas français, donc du coup, on ne me donne pas exactement mon salaire.
Ils vous donnent moitié de salaire en fiche de paye, la moitié en or,
oui.
pour qu'ils ne payent pas de charges.
Exactement.
Après, vous aussi, vous ne pouvez rien faire parce que vous n'êtes en bas de limite.
Vous êtes presque... l'argent qu'on vous paye, le montant, n'est pas conséquent.
Oui, c'est ça un peu.
Alioune, est-ce que vous avez eu des problèmes de... Vous avez été confronté à des difficultés de la langue en Mauritanie? Ça a été un problème pour vous?
Non, pas tout à fait, parce que la Mauritanie et le Sénégal, c'est presque les mêmes ethnies. Donc, bon, au Sénégal, j'ai commencé à parler la langue polar. Donc, ce qui était un peu difficile pour moi en Mauritanie, c'était de parler le soniké et la hassaniya.
Donc, par la ce sont des langues qui sont parlées. Hein. Ce sont des langues parlées en Mauritanie.
Bien sûr, c'est des langues qui sont parlées vraiment en Mauritanie. Et par la grâce de Dieu, je suis adapté vite possible parce que c'était mon but quand j'étais un jeune d'être linguiste ou bien multilinguiste. Donc, Dieu m'a donné vraiment la facilité de rester vraiment. Automatiquement, je suis devenu presque comme un Mauritanien.
Maintenant, vous parlez quatre langues, vous aviez dit.
Je parle quatre langues, oui. Toutes les langues qui sont en Mauritanie, je les parle vraiment.
Merci beaucoup, Alioune, pour ce témoignage depuis la Mauritanie. Avec nos invités, nous allons maintenant parler des conséquences que ça peut avoir, les conséquences que cela peut avoir sur les réfugiés quand ils n'arrivent pas à exercer leur métier d'origine, le métier pour lequel ils ont été formés. Inès Mesmar, quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir ?
Ce que j'ai pu observer à travers vraiment les entretiens et les personnes que j'ai pu rencontrer, c'est effectivement c'est l'effacement de soi, hein, c'est la perte de sens que les personnes peuvent vivre en étant dans un nouveau pays, en ayant sauvé sa peau, hein, souvent quand elles ont dû quitter pour des raisons politiques ou sécuritaires, et puis arriver ici, et puis... plus rien trouver, quoi, pas trouver sa place. Et donc, c'est compliqué. Les conséquences, elles peuvent être psychiques, elles peuvent être mentales, et elles peuvent avoir aussi des conséquences d'un point de vue de santé. Donc, beaucoup acceptent aussi ces situations-là. Je le disais, hein, elles acceptent parce qu'à un moment donné, elles n'ont pas le choix et se retrouvent dans ces situations-là. Mais finalement, c'est aussi une personne qui va avoir beaucoup de mal à trouver sa place, à faire le lien et à devenir un acteur à part entière, parce que finalement, le manque de reconnaissance qu'elle va vivre, ça va être aussi une forme de désengagement aussi dans la société. Enfin, c'est des choses que j'ai pu traduire, ne serait-ce que par l'histoire de ma mère.
Rachid Nourizi, vous, vos parents, votre grand-mère, ils étaient tous cuisiniers. Était-ce important pour vous de travailler dans le même domaine?
C'était pas important pour moi, mais c'est dans le sang. Je peux pas faire autre chose. Même le week-end, moi, je suis dans la cuisine chez moi. Moi, je suis amoureux de cuisine et je peux pas faire autre chose. C'est ça mon problème.
Et si jamais vous n'aviez pas eu quelque chose en cuisine, qu'est-ce que vous alliez faire? Vous vous êtes jamais posé cette question?
J'ai jamais pensé à ça. Parce que j'avais toujours des mains dans la cuisine, dans le plat. J'avais toujours mes mains qui étaient en train de couper, éplucher, cuire des trucs.
Quelles conséquences ça peut avoir sur un réfugié qui n'arrive pas à travailler dans le domaine pour lequel il a été formé à la base dans son pays, Maz Mahmoud?
Alors, comme Inès a dit, c'est un peu très difficile. Pourquoi on ne peut pas travailler avec ces personnes. Donc, parlons de la solution. C'est quoi la solution? Donc, du coup, la solution pour nous, c'est travailler avec ces personnes pour avoir la reconnaissance de leur expérience. Donc, Inès a dit que leur expérience n'est pas reconnue. Donc, c'est pour ça qu'ils peut-être ils n'arrivent pas à exercer leur fonction ou le poste qu'ils sont exercés dans leur pays d'origine. Donc, pour sortir de cela, il faut travailler avec ces personnes dans une manière égale.
Quand ils arrivent chez vous, à Ekota, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous leur expliquez?
Alors, du coup, notre association Ekota, c'est une jeune association. Et donc, du coup, pour nous, c'est pour ça. Notre tagline, c'est par les personnes réfugiées et pour les personnes réfugiées. Donc, de travailler avec eux dans une manière égale, de leur entendre et prendre en considération ce qu'elles disent. Et après, de leur faire un soutien par la société civile française. Donc, du coup, on a un soutien très important de la société française. On a deux chercheurs de CNRS qui sont dans notre conseil d'administration, un directeur de MSF, Médecins Sans Frontières. On a aussi trois professeurs de Sciences Po Paris qui sont dans notre conseil d'administration. Aussi deux journalistes. Donc, il faut vraiment mettre en relation avec des gens qui peuvent les aider et qui comprennent tout à fait quelles sont les conséquences, et de le faire, de vraiment les aider, et ne les voit pas comme un sujet, mais quelqu'un comme exactement comme d'autres personnes.
Qui peut participer en tant qu'acteur.
Oui, exactement. Et c'est ça la solution. Donc, il faut travailler comme ça. Et si on travaille comme ça, on peut arriver à sortir de cette conséquence.
Vous faites un travail de mise en relation.
Exactement, oui, c'est ça.
Et Inès Mesmar, vous recrutez complètement les réfugiés pour leur faire...
On recrute des artisans.
Des réfugiés artisans qui savent faire quelque chose dans l'artisanat.
Oui, et c'est, enfin, je rejoins tout à fait ce que dit Maz. Nous, notre travail, on accompagne, on identifie les artisans, on les accompagne à travers un dispositif de formation qu'on a développé. Et la première chose, effectivement, qu'on va regarder, c'est ses compétences professionnelles. Et la première chose qu'on va faire, c'est essayer de les mettre en avant à travers... Et en les montrant, c'est-à-dire qu'ils vont créer grâce à l'appui d'un designer. Donc, c'est aussi cette mise en relation de pair à pair, d'égal à égal, entre un professionnel et un autre professionnel. C'est de créer un projet, donc de création, un objet qui va rendre compte des compétences de l'artisan dont on va promouvoir. Et l'idée, ensuite, c'est qu'on puisse l'inscrire dans cet écosystème des métiers d'art comme n'importe quel artisan français et de les mettre tout à fait au même niveau. Et on se rend compte, de par notre expérience depuis 4 ans maintenant, que finalement, la barrière de la langue n'est pas une barrière. Ils arrivent à y dialoguer. Même quand ils ne parlent pas du tout français, avec un designer, avec un artisan, et créer un véritable projet. La barrière n'est pas un angle, c'est qu'après, c'est le métier qui parle. Et la chance pour les personnes qui ont un métier de la main, bah, comme dans la cuisine, c'est que c'est quelque chose qu'ils peuvent transporter avec eux et amener avec eux et montrer et finalement faire découvrir de manière matérielle, quoi. Donc nous, on a des collections qu'on montre dans la boutique au Viaduc des Arts, qu'on vend et qu'on présente auprès des professionnels et des acteurs du secteur.
Et les réfugiés qui sont dans l'attente de leur procédure, ils reçoivent quand même une allocation journalière et par mois, ça tourne autour de 200 ou 430 euros. Est-ce qu'il arrive que certains réfugiés se basent sur ça et qu'ils aient un manque de volonté pour pouvoir s'insérer, apprendre la langue et aller chercher du travail?
Ça dépend.
vous avez déjà connu des gens qui sont restés enfermés dans ça?
Ça ne suffit pas, de toute façon.
Avec 200 euros et une famille de 3 personnes ou 4 personnes, qu'est-ce que vous voulez faire?
Même une personne.
Oui, même une personne, 200 euros, qu'est-ce que vous allez faire? Même une baguette par jour, ça me coûte combien? Après, à la fin de mois. C'est pas qu'une baguette à manger. Hein. Qu'est-ce que vous voulez manger? Qu'est-ce que vous voulez acheter pour vous?
C'est une somme.
Comment
très,
vous habiller dans le... devant les autres?
C'est déjà 60
des transports,
euros.
Tout ça.
Merci. Et tout de suite, nous allons écouter un reportage.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Un centre expérimental d'accueil et d'insertion des réfugiés a ouvert en octobre 2019 à Paris. L'idée, permettre aux réfugiés accueillis de trouver un travail stable et un logement en 6 mois. Le centre dans le 12e arrondissement est financé par la préfecture d'Île-de-France et géré par l'association Aurore. Aujourd'hui, il accueille près de 200 hommes réfugiés, surtout afghans et soudanais. Ils sont hébergés sur place, vivent dans des chambres de 3, paient un loyer minimal, ont accès à des cours de français. La plupart n'ont pas de qualification et sont accompagnés ici régulièrement par des assistantes sociales comme Lina Gilles. Notre reporter Charles Dupiot a pu assister à l'un de ces entretiens.
Alors, ça va déjà?
Oui, ça va bien.
Ouais, ça fait un moment qu'on s'est pas vu.
Oui, ça va bien.
Donc, du coup, je voulais qu'on se voit par rapport à la recherche de travail. On avait fait un CV la dernière fois, on avait cherché du travail, on avait envoyé des candidatures, mais ça n'avait pas marché. J'ai vu des offres, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser, toujours dans le bâtiment, parce que vous m'aviez parlé de bâtiment. Vous me dites si c'est pas ça, hein, si je me trompe. Vous m'avez parlé aussi...
Plombier, peintre. Mmh.
Ok, donc du coup moi j'ai vu quelques offres, si ça vous va je vais vous les montrer, vous me dites si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, bah, on envoie votre candidature,
oui.
D'accord?
Alors,
voilà. Alors ça, c'est une première offre. Je crois, c'est pas à Paris, c'est à côté de Paris.
Île-de-France?
Ouais, en Île-de-France. Je vais vous montrer. C'est la ligne 13.
Et comment vous recevez ces annonces, vous, au sein du centre?
Ces annonces-là, c'est du partenariat, en fait, tout simplement. Enfin, il y a énormément d'organismes et d'associations qui proposent de l'emploi en insertion. Mais là, par exemple, quand j'ai pris mon poste, Je leur ai envoyé un mail à toutes en disant « Bonjour, il y a un nouveau centre qui vient de s'ouvrir. Est-ce que vous pouvez nous mettre dans la liste de diffusion ?» Et du coup, ils nous envoient les offres d'emploi régulièrement.
Donc ce sont surtout des offres d'emploi en insertion ?
Oui. Après, on recherche aussi de l'emploi classique pour les personnes qui pourraient plus y accéder. Mais dans ces cas-là, on utilise les canaux classiques, le site de Pôle emploi.
Est-ce que ce sont des secteurs, des métiers qui donnent envie aux personnes réfugiées ? Est-ce qu'elles n'auraient pas envie de travailler ailleurs ?
Si, sûrement. Après, il y a deux types en gros, de personnes. Il y a des personnes, par exemple, comme monsieur, qui a déjà une expérience dans ce domaine-là. Donc, ça fait partie de son corps de métier et de ses compétences de base. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a des personnes qui veulent continuer dans ces domaines-là et se former. Et effectivement, il y a d'autres personnes qui avaient peut-être un niveau socio-professionnel un petit peu plus élevé dans leur pays d'origine, qui ont pu faire des études, comme un monsieur, par exemple, qui était journaliste ou des choses comme ça, qui ne peuvent plus accéder au même niveau de métier qu'ils avaient dans leur pays. Et dans ces cas-là, il y a un peu un déclassement. Donc il y a tout un travail à faire aussi autour de ça, en leur disant que c'est un premier emploi. Et ils sont tous très conscients qu'il faut avoir un travail pour avoir un appartement. Donc ils ne sont pas très regardants non plus sur l'emploi qu'ils vont trouver. Ils se disent, c'est pas exactement ce que je voulais au début, c'est pas grave, je vais me sacrifier un petit peu, je vais le faire, je vais être tranquille dans mon logement, et puis après, on verra, et je ferai mes équivalences, mes formations plus tard. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou pas ?
Non, il n'y a pas de questions. Oui, ça va bien.
Je vais vous montrer autre chose. Okay. C'est une formation. Dans le bâtiment, c'est une formation de peinture.
Gratuite à payer ?
C'est une formation où vous, vous ne payez pas, mais eux, ils vous payent vous. Oui. On vous paye pour apprendre.
Combien la formation est payée ?
Alors, c'est une formation qui dure 9 mois et c'est payé à peu près 900 euros par mois. Ça commence en avril, donc il faut envoyer les candidatures maintenant et avec ça, vous pouvez trouver un logement. Mais donc là, du coup, cette formation, c'est pour faire de la peinture. Mais c'est peintre décorateur. C'est un petit peu spécial. Ouais. C'est pour apprendre en peinture à faire, par exemple, ça. Du faux marbre. Ou, par exemple, du faux bois. Aussi, ils vous apprennent à mélanger les couleurs. Ouais. Du béton ciré, par exemple. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble.
Montrer des photos.
Oui, je montre beaucoup de photos. Ça permet d'illustrer. C'est plus facile de visualiser parce que même moi... Avant, on m'aurait dit béton ciré, je ne sais pas ce que c'est. Donc, au moins comme ça, on sait de quoi on parle. Voyez ça.
Faire les salles, les dobas, faire les cuisines.
Oui. Exactement.
Non, ils sont intéressés, les pharmaciens, ils sont intéressés.
Donc, juste pour le CV, on va regarder ce qu'on avait fait. Alors. Ok, il est bien votre CV.
Dans votre CV, on voit que vous avez eu plusieurs expériences BTP, donc dans
BTP,
le bâtiment
oui.
Agriculteur, ça c'était au Soudan.
Oui, le Soudan, oui.
En 2010-2011, puis plombier 2011-2013, toujours au Soudan, et après vous étiez en Libye.
Oui, passé la Libye, après passé l'Italie, après passé la France. Je suis soudanais, je suis arrivé en France en 2017, j'ai 33 ans, maintenant je suis réfugié.
Depuis quand ?
3 ans. Reste 7 mois. Donner papier.
Après 7 mois en France ?
Oui, 7 mois.
Et depuis 3 ans que vous êtes en France, est-ce que vous avez travaillé ?
Non, c'est dans la France, il n'y a pas de travail.
Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans l'idéal comme travail, comme métier ?
Bâtiment. Je cherche le bâtiment là-bas. D'abord, je cherche un travail. Après, je cherche un logement. Après, il y a beaucoup d'arrières, je cherche une femme.
Vous qui êtes travailleuse sociale ici, est-ce que ce type de trajectoire, on les retrouve souvent ? À savoir quelqu'un qui est arrivé en France il y a déjà plusieurs années, qui a eu le statut de réfugié il y a plusieurs années et qui n'a trouvé ni logement ni travail ?
Alors là, le public qu'on accueille ici, c'est un petit peu particulier parce que son profil est tout à fait classique de la plupart des personnes qu'on a. Pendant sa demande d'asile, il a été transféré ailleurs parce qu'il habitait en Normandie pendant sa demande d'asile. Et donc, une fois qu'il a obtenu le statut de réfugié, comme il était dans un hébergement pour demandeurs d'asile et non plus réfugiés, il a dû partir. Fin de prise en charge et donc il se retrouve sans accompagnement social, sans hébergement et donc très classique. Ils viennent sur Paris en se disant que ça va être plus simple à Paris, qu'il y aura plus d'opportunités. Sauf que bah, la région parisienne, c'est complètement saturé. Comment vous avez vécu avant d'arriver dans ce centre? Vous étiez où?
Dormir sur la route de Porte de la Chapelle.
Vous avez dormi dehors, Porte de la Chapelle?
Porte de la Chapelle, oui.
Pendant combien de temps?
2 ans. Détente. Un problème dormir là-bas. Beaucoup de problèmes. Je suis réfugié, pourquoi dormir sur la route? Pourquoi donner les papiers ou dormir sur la route?
C'était un reportage de Charlie Dupio. Inès Mesmer, vous reconnaissez certains parcours, certaines personnes passent par là avant d'arriver chez vous?
Oui, bah c'est assez classique hein, ce qui a été présenté. Maintenant, il y a vraiment, je pense aujourd'hui, on peut envisager l'intégration des personnes autrement. C'est des personnes qui non seulement ont des parcours professionnels même, et des expériences et des compétences, même si elles n'ont pas de diplôme, elles ont commencé en général à travailler très tôt. Et effectivement, il y a des moyens, comme nous on le montre avec la fabrique Oman, de les accompagner, qu'ils puissent adapter leur savoir-faire, leurs compétences, et mieux comprendre le marché du travail dans lequel ils s'inscrivent, sans avoir forcément à passer par du déclassement professionnel, qui produit des conséquences à très long terme, c'est-à-dire sur eux et aussi sur leurs enfants. Donc c'est important aujourd'hui de changer la vision de l'intégration en utilisant ces personnes-là comme des personnes qui vont répondre à des besoins sur le marché du travail.
Maz Mahmoud, vous êtes passé par là, vous avez été reçu dans l'un de ces centres ou pas?
Non, moi, du coup, moi, j'ai, comme je vous ai dit, j'ai eu beaucoup de chance, donc j'ai rencontré une famille qui m'a accueilli. Donc après, d'accord, juste après, j'ai commencé mon master, donc j'ai pas aussi parcours.
Mais vous connaissez des gens quand même
oui,
qui ont...
Oui, effectivement, oui. Je travaille aujourd'hui, par exemple, pour une association qui s'appelle Tech Fugees. Donc on aide notamment les personnes réfugiées femmes pour rentrer dans le domaine de tech. Et donc on fait exactement la même chose. On leur fournit la formation et après, on les accompagne pour trouver un emploi derrière.
D'accord. Rachid Nourouzi, vous reconnaissez cette procédure? Ça vous dit quelque chose?
Ça me dit quelque chose parce que moi j'étais à CADA. Après, avant de CADA, j'étais dans un hôtel. Après CADA, après ça change. France d'Art d'Asile, j'étais presque 3 ans dans un appartement partagé avec 6 autres personnes, avec ma famille.
Avec votre famille?
Oui, avec ma famille. Et chaque fois qu'on était allé au France d'Art d'Asile pour dire c'est pas possible de rester avec 6 autres hommes dans un appartement de 90 mètres carrés. Un toilette et un salle de bain et une cuisine.
Oh, dit,
si vous n'êtes pas contente, il faut aller dans la roue.
Merci à nos 3 invités. Inès Mesmer, fondatrice de la Fabrique Nomade qui agit en faveur de l'insertion des réfugiés. Maz Mahmoud, cofondateur de Ekota Unité en Bangladesh, association qui fait en sorte que les déplacés deviennent des acteurs et non des sujets. Et Rachid Nourouzi, originaire d'Iran, chef cuisinier au Cuisto Migrateur, qui est aussi un livre de cuisine sorti en 2019 aux éditions de La Martinière. Merci à toute l'équipe, Sigrid Azirwal, Delphine de Dianos, Nicolas Benita, Cécile Lavelot, Alix L'Hospital et moi-même, Penaï Traoré.
L'épopée des musiques.